France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le nom de Strasbourg à Jordan Bardella. Non, le Parlement européen ne veut pas rémunérer son directeur de cabinet comme assistant parlementaire. Des faits qui rappellent la condamnation de plusieurs membres du RN il y a 10 jours. Explication dans un instant. À suivre encore l'état de santé de l'économie française. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Le gouverneur de la Banque de France ne veut pas noircir le tableau.
Oui, il relativise l'ampleur du coup de frein à venir sur la croissance liée au choc des droits de douane. Il parle au contraire d'une importante réserve de croissance potentielle pour la France. Si le pays réussit à ne pas se laisser déstabiliser par, je cite, ce mauvais vent d'Amérique, et il met en garde face à la tentation de revoir à la baisse l'objectif de réduction du déficit budgétaire.
A tout de suite pour vos explications. Tout cela donc alors que les Américains ont augmenté leurs droits de douane la nuit dernière. Nous verrons également que l'Irlande, pays très touché par ces hausses, négocie en direct et que nos producteurs de coquilles Saint-Jacques en Bretagne, eux, vendent désormais en Chine. Nous parlerons également de cette poste en Alsace où vous pouvez désormais acheter des fruits et des légumes. Dans une vingtaine de minutes, le cinéma, les coups de cœur, coups de griffe aussi d'Alexis Demeyer. À partir de 13h30, gros plan sur la jeunesse rurale, souvent oubliée, avec deux ados qui seront avec nous. Elles ont 15 et 17 ans. Elles racontent leur quotidien dans un podcast. C'est beau, c'est étonnant, c'est poétique. Mayan et Kariwen arrivent de Langonnette en Bretagne. Elles sont nos invitées. 01 45 24 7000 pour nous rejoindre. 13h50, c'est la France. Les juges de plus en plus contestés, menacés dans notre pays. Ce sera avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Marie-Lou Berry demande Janis Joplin.
Je me faisais des installations dans ma chambre où j'installais plein d'enceintes. Je mettais un casque et je chantais par-dessus. Et j'avais l'impression d'être au concert et de faire le concert. Et c'était incroyable, Janis Joplin.
Elle livre un peu de son enfance à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pour condamner Marine Le Pen il y a 10 jours à une peine d'inéligibilité immédiate, les juges avaient notamment expliqué qu'il y avait au Rassemblement National un risque, je cite, de récidive caractérisée, récidive possible de détournement de fonds publics. Manifestement, le Parlement européen le craint aussi, qui vient de dire non et à plusieurs reprises à Jordan Bardella. C'est le journal Le Canard Enchaîné qui le révèle ce matin. Le patron du RN, qui est aussi député européen, demande que son directeur de cabinet soit rémunéré par l'argent du Parlement européen. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Et le Parlement craint de financer un emploi pour son parti.
Oui, François Paradol serait engagé comme assistant à temps partiel, 40%, et par le Rassemblement National à 35%. Il est aussi conseiller régional d'Île-de-France. En juillet, le Parlement européen a refusé ce nouveau contrat. Son secrétaire général s'en explique à Jordan Bardella dans un courrier que s'est procuré Le Canard et que nous avons pu consulter. Compte tenu de vos responsabilités en tant que président de parti, les missions de M. Paradol comme directeur de cabinet exigent un certain degré de disponibilité et de réactivité. Cela paraît peu conciliable avec la régularité des tâches d'assistance parlementaire que vous envisagez de lui confier du lundi au jeudi de 9h à 12h30. François Paradol, lui, ne voit pas le problème. Les tâches sont clairement dissociées, nous affirme-t-il. Quand je rédige une question pour le Parlement, je ne travaille pas pour le RN. Le Parlement estime au contraire qu'il y a un risque que les frais d'assistance parlementaire soient utilisés au profit du parti politique, ce qu'ont illustré les procès récents devant les juridictions nationales françaises, peut-on lire encore. Ce risque ne saurait être toléré pour protéger les intérêts financiers de l'Union, fin de citation. Le directeur de cabinet de Jordan Bardella dénonce une procédure politique et va déposer un nouveau recours.
Merci Sarah Guibaudot. Le président du RN qui a publié à l'automne dernier son premier livre, Ce que je cherche, à l'époque la régie publicitaire de la SNCF avait refusé d'afficher la campagne de promotion dans les gares. Elle est aujourd'hui jugée fautive pour cette décision par le tribunal des activités économiques, mais le tribunal ne l'oblige pas pour autant à diffuser avec quelques mois de retard cette campagne de pub. C'est une belle victoire de la liberté d'expression contre les réflexes totalitaires de la gauche. Fin de citation, voilà la réaction à l'instant de Jordan Bardella. Avant de parler de la guerre commerciale mondiale déclenchée la nuit dernière par Trump et ses conséquences sur notre économie, cette page qui se tourne en Haute-Savoie, vallée de l'Arve à Sallanches, depuis 1900 1963, les skis Dynastar faisaient la renommée de la vallée. Ils ont fait glisser de très nombreux champions vers des titres mondiaux et olympiques. Eh bien, le site va fermer ses portes en juillet prochain. Le groupe Rossignol l'a annoncé hier soir. 57 salariés sont concernés. Jonathan Landais, les plans de licenciement se sont enchaînés ces dernières années.
Près de 800 postes supprimés en une vingtaine d'années. Le site de Salanches, qui employait plus d'un millier de salariés dans les années 80, ne faisait plus travailler qu'une soixantaine de personnes depuis l'an dernier, depuis un énième plan social. En décembre 2024, la fabrication de skis juniors avait été délocalisée au nord de Barcelone. Le site au Savoyard s'était recentré ces dernières années sur les skis haut de gamme. Mais face à un marché ultra concurrentiel, face à la flambée des coûts de l'énergie et face à un contexte économique international devenu très instable, la direction de Rossignol explique dans un communiqué vouloir désormais consolider ses activités essentiellement sur deux sites, son siège de Saint-Jean-de-Moiran en Isère, pour en faire notamment un centre de référence en recyclabilité du ski, et son usine d'Arthès en Espagne, déjà dédiée à la production à grand volume de ski alpin et ski nordique.
Précision ici, pays de Savoie. Contexte économique international instable, dit donc le groupe Rossignol. On ne peut pas lui donner tort. Depuis minuit, les États-Unis de Donald Trump imposent donc à des dizaines de pays des nouveaux droits de douane. Les produits made in China sont désormais deux fois plus chers pour les consommateurs américains. Ceux fabriqués en Europe ont pris 20%. Et malgré le tollé mondial, le président américain garde le soutien chez lui d'une large partie de l'électorat qui plébiscite sa politique. Mais le vent pourrait tourner, analyse Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis.
Il y a cette promesse fondatrice dès 2016 du protectionnisme qui permettrait une réindustrialisation des États-Unis, en particulier dans les États de la ceinture de la rouille, de la fameuse Rust Belt, comme l'Ohio par exemple. Et ça, c'est une promesse fondatrice. Et il y a une promesse plus récente qui est de 2024, qui est de dire « moi, je serai l'homme de la baisse des prix ». Et cette promesse-là, elle s'adressait aux nouveaux électorats trumpiens. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, chez ces trois électorats-là, électorat populaire africain-américain, électorat populaire hispanique, jeune, non diplômé de 18 à 29 ans, il y a une désapprobation massive des tarifs douaniers parce qu'on anticipe, bien sûr, la hausse des prix à la consommation, la hausse des prix quotidienne qui risque d'en résulter. Donc, c'est vraiment là le risque majeur pour Donald Trump, la fracture de sa coalition électorale.
Corentin Célin au téléphone d'Olivier Poujade. Conséquence ce matin, les places financières asiatiques ont continué de plonger et à l'instant, la Chine annonce qu'elle va imposer des droits de douane supplémentaires de 84%, plus 84% sur les biens américains, et ce, à partir de demain. Le commerce mondial va donc ralentir, c'est obligatoire. Cela va-t-il se traduire par une récession pour notre économie ? Claire Chaudière, on vous retrouve. Vous avez pu interroger ce matin un personnage clé de notre économie, c'est le gouverneur de la Banque de France. Qu'en pense-t-il ?
Eh bien, en tout cas, qu'il ne faut ni céder à la panique ni au pessimisme. Dans sa traditionnelle lettre au président de la République publiée aujourd'hui, il appelle à éviter à tout prix la tétanie. L'impact direct du choc commercial que nous vivons reste évalué à 0,25 point de PIB sur la zone euro, sachant que la France reste moins exposée que d'autres pays. Le gouverneur de la Banque de France se positionne bien sûr en faveur de mesures ciblées, mais en réalité, c'est bien au-delà que la bataille va se jouer. Il faut, selon lui, sortir d'une réponse purement défensive. Écoutez.
Nous avons beaucoup de doutes sur nous-mêmes, et ce doute peut nous tétaniser. S'il y a une vertu américaine, peut-être une seule, que nous devrions garder ces jours-ci, c'est la confiance en nous-mêmes. Tout le reste de la politique américaine actuelle, nous le laissons très volontiers. Il vaut mieux être aujourd'hui européen qu'américain. Mais nous devons élever notre niveau de jeu collectif.
En renforçant la force et la puissance de la monnaie européenne, dit-il, de nos marchés financiers, et en investissant collectivement dans l'innovation, le charbon et l'acier qui ont été le fondement du projet européen ont été remplacés par l'intelligence artificielle, dit-il. François Villeroy de Gallo qui appelle, et ce n'est pas un détail, car le débat commence à monter, à ne surtout pas dévier du cap de réduction du déficit, 5,4% en 2025, et cela malgré le nouveau contexte. La croissance, conclut-il, c'est désormais la victoire sur l'incertitude.
Merci Claire Chaudière. Et justement, compte tenu de ces menaces sur la croissance, le gouvernement estime que les recettes seront moins importantes que prévues pour le budget et il décide donc de réduire les dépenses de 5 milliards d'euros supplémentaires cette année, mais on ne sait pas encore de quelles dépenses il s'agit. Au-delà de ces coupes dans le budget, comment réagir ? L'Union européenne publiera dans l'après-midi une liste de produits américains qu'elle va surtaxer dans les prochains jours. Mais il s'agit là d'une réponse aux droits de douane imposés il y a un mois par Trump sur notre acier et notre aluminium. Pour la réplique aux hausses de la nuit dernière, il va falloir attendre encore un peu, du temps nécessaire notamment pour se mettre d'accord à 27, car certains sont tentés de négocier de leur côté, et c'est déjà le cas de l'Irlande. Bonjour Clémence Pénard.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondante à Dublin. L'Irlande, il faut le dire, est l'un des pays de l'Union qui a le plus à perdre. Ils vont beaucoup aux États-Unis.
Et oui, mais c'est d'abord le secteur agroalimentaire, notamment le beurre emblématique irlandais, qui est touché par les 20% pour le moment imposés par Donald Trump. Dans le viseur également le whisky irlandais, mais pour échapper à la menace de droits de douane jusqu'à 200% sur le whisky, mais aussi les vins, Dublin, aux côtés de Paris et de Rome, ont réussi à écarter le bourbon américain des produits taxés en représailles par l'Union européenne. Autre source d'inquiétude en Irlande, pas des moindres, l'industrie pharmaceutique, un pilier de l'économie nationale qu'on pensait épargner. Mais Washington a annoncé ce matin l'imposition très prochaine de droits de douane spécifiques sur les importations pharmaceutiques. Enfin, l'Irlande redoute plus que jamais une offensive directe de la part de l'UE contre les géants américains de la tech, le pays qui est devenu un véritable aimant pour ses multinationales. Google, Apple, Meta, toutes y ont posé leurs valises, en tirent des recettes fiscales conséquentes et des milliers d'emploi.
Alors, les Irlandais, Clémence, ont décidé de traiter directement et sans attendre avec Washington.
Et oui, Simon Harris, l'ancien Premier ministre irlandais, désormais ministre du Commerce, est à Washington aujourd'hui pour une réunion clé avec Howard Lutnick, le secrétaire américain au Commerce, pour plaider en faveur d'une solution négociée entre l'Union européenne et les États-Unis. L'Irlande joue gros, une escalade pourrait lui coûter très très cher, mais l'entretien s'annonce tendu, Howard Lutnick ayant récemment accusé l'Irlande de mener une escroquerie fiscale à l'encontre des États-Unis.
Merci. Clémence Pénard en direct de Dublin. L'Italie et l'Espagne ont annoncé ce matin qu'ils revoyaient leurs prévisions de croissance à la baisse, et puis on attend de voir ce que vont dire dans les prochaines heures les Allemands, puisque ce matin, le chancelier, futur chancelier Friedrich Merz a annoncé qu'un accord de gouvernement avait été trouvé entre ses conservateurs, c'est lui qui a remporté les dernières élections, et les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz. Alors on voit bien le débat partout en Europe, faut-il mettre des barrières douanières, comme les Américains le font, pour protéger nos emplois, nos industries, sachant que la France vit aussi de son exportation. Illustration avec la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, qui se vend désormais en Chine. C'est une première pour une coquille française. Un mareyeur des Côtes d'Armor expédie depuis novembre dernier vers la Chine, Joanne Moison.
Ce sont deux contrats de 2 ans signés avec 2 clients chinois après de longs mois de négociations menées notamment par Vanessa L'Hôtelier, la directrice commerciale des Viviers de Saint-Marc, entreprise familiale où travaillent 26 personnes et basée à Trèveneuc et Saint-Quay-Portrieux, ici dans les Côtes d'Armor.
Nous sommes les premiers à le faire et on est fiers effectivement de l'avoir fait. C'est un beau challenge professionnel et puis c'est surtout très important pour la filière mer, la filière pêche.
L'objectif n'est pas de pêcher plus de coquilles pour les expédier vers la Chine. Il y a des quotas à respecter, fixés chaque année, mais de trouver de nouveaux débouchés, surtout en seconde partie de saison, car après les fêtes, les Saint-Jacques se vendent moins bien.
En deuxième partie de campagne, c'est beaucoup plus compliqué. Le contexte est difficile déjà depuis, on va dire, 3 ans. Et il était grand temps, effectivement, de pouvoir trouver quelque chose de conséquent en termes de marché. Eux, ce qui les intéresse sur notre produit, c'est que nos normes, en fin de compte, sont un gage de qualité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur certaines zones, notamment au Japon, à cause de Fukushima, puis aussi une coquille Saint-Jacques qui plaît aussi au goût.
La coquille pêchée ici dans la baie de Saint-Brieuc est surgelée dans les 24 heures et envoyée par cargo via le Havre jusqu'en Chine.
Explication ici armorique.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Le calendrier est plutôt bien fait pour le cinéma français. Demain, le Festival de Cannes dévoilera l'essentiel de la sélection officielle de son édition 2025. Mais aujourd'hui, c'est la face sombre qui est exposée. Après la présentation du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée des députés qui écrivent sur les violences morales et sexuelles, elles sont décrites comme systémiques, endémiques et persistante, constat terrible et qui bouleverse l'actrice Judith Godrèche. C'est elle qui avait déclenché par ses révélations et ses plaintes la création de cette commission d'enquête.
C'est vrai que ce rapport, je l'attendais et qu'il est impressionnant et assez terrifiant, mais je n'en suis pas étonnée parce que je ne m'attendais pas à mieux. Enfin, en tout cas, c'est la gravité de le constat est terrible et il est important maintenant, grâce à ce rapport, que en effet le monde politique s'en empare et que plus personne ne puisse dire on ne savait pas.
Judith Godrèche, ce matin sur France Info, commentant un rapport qui va en fait bien au-delà du cinéma, puisqu'il s'agit aussi de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode, de la publicité ou encore de la musique, l'enseignement musical. Avec un exemple, les pratiques pédagogiques de la maîtrise des Hauts-de-Seine. 470 élèves et un chef de chœur, Gaël Darchène, visé par 5 plaintes pour agression sexuelle. Le rapport parlementaire décrit un système d'emprise psychologique sur les élèves et l'absence totale, Erwan Chassin, de contrôle extérieur.
Auditionné par cette commission d'enquête, Thibaut Dératé est un ancien élève de la maîtrise des Hauts-de-Seine. Il a alors 13 ans.
Il y avait vraiment toujours, à chaque fois que M. Darchène rentrait dans une répétition, un froid glacial qui s'instaurait dans la salle parce qu'on était tous terrifiés de sur qui ça va tomber cette fois-ci.
Violence verbale, brimade et humiliation deviennent alors comme un système d'emprise sur les jeunes élèves de la maîtrise.
Et quand je dis sur qui ça va tomber, est-ce que ça va être une remarque sur le physique d'une jeune fille dans un malaise absolu parce que en fait il y a un comportement de drague, ou bien est-ce que ça va être une remarque humiliante? À partir de là, ça crée ce contexte où on est tous effrayés. De par le fait que je me sois opposé, j'en ai eu beaucoup de conséquences, de punitions, d'humiliations publiques. Et j'ai même du coup été enfermé dans un bus pendant plusieurs heures parce que cette personne avait reçu l'ordre de, à tout prix, ne pas me laisser sortir.
Les vexations se mêlent aux récompenses pour attribuer les rôles de solistes. Les enfants vivent alors sous le contrôle psychologique du chef de chœur.
Tant qu'on n'oblige pas ces institutions à avoir des dispositifs d'écoute, des dispositifs de plainte, des dispositifs de contre-pouvoir. Il y a un boulevard pour les dérives, quoi.
Le rapport parlementaire préconise de mettre en place un vaste plan national contre les violences pédagogiques dans tous les établissements artistiques.
Reportage Erwan Chassin à l'Assemblée nationale, où les textes sur la fin de vie sont examinés depuis ce matin en commission. Je dis les textes puisqu'il s'agit désormais de deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs et l'autre, la plus controversée, sur l'aide à mourir qui légaliserait le suicide assisté et dans certains cas strictement encadré, l'euthanasie. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Ce sujet revient donc à l'Assemblée 10 mois après la dissolution qui avait mis un terme au débat.
Oui, et en préambule, la ministre Catherine Vautrin a tenu à rassurer les soignants, rassurer les opposants à l'aide à mourir. Non, ces deux textes sur la fin de vie ne présentent pas une rupture anthropologique, affirme la ministre.
Ces textes ne banalisent pas le suicide, ils reposent sur des critères stricts, une évaluation médicale rigoureuse et l'expression d'une volonté libre et éclairée. Il s'agit d'un cadre d'exception pour des situations exceptionnelles.
Rassurer aussi les patients qui attendent une évolution de la loi. Plus de 1600 amendements ont été déposés. La rapporteure, Annie Vidal, appelle ses collègues à ne pas jouer le jeu de l'obstruction parlementaire.
Chers collègues, vous savez combien notre calendrier est serré. J'espère aussi pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour que nous ayons un débat, certes nourri, mais à un certain rythme, et donc de préserver la séparation entre les deux propositions de loi.
Deux propositions de loi qui ont connu un chemin long et sinueux, des centaines d'heures d'audition, de délibération, comme le souligne le rapporteur Olivier Falorni.
Jamais, je dis bien jamais, une loi sociétale d'importance n'aura été autant concertée, analysée, débattue que ce texte sur la fin de vie.
Les députés ont désormais 7 jours devant eux pour écrire cette nouvelle mouture des textes sur la fin de vie avant un examen en mai à l'Assemblée.
Alice Cachaner, l'enquête sur l'évasion et la cavale de Mohamed Amra se poursuit. Ce matin, l'un de ses complices présumés a été remis à la justice française à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il avait fui en Thaïlande où il avait été interpellé. Il s'agirait d'un membre actif du commando qui a libéré Amra et tué 2 agents pénitentiaires. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, est actuellement entendu en garde à vue dans le cadre d'une enquête qui porte sur la nature des tâches effectué à la mairie par des chargés de mission. Le maire de Lyon collabore pleinement avec la justice et il continue d'assumer ses fonctions avec responsabilité. Voilà ce qu'explique la mairie de Lyon à l'instant. En République dominicaine, le choc est énorme depuis hier, avec l'effondrement dans la nuit de lundi à mardi du toit d'une discothèque dans la capitale, Saint-Domingue. Un établissement fréquenté par les personnalités les plus en vue du pays, d'ailleurs parmi les près de 113 morts. mort, figure une star de la musique merengue qui se produisait sur la scène au moment du drame. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Des centaines de sauveteurs sont toujours à pied d'œuvre dans les décombres.
Oui, vous savez, l'espoir de retrouver des personnes en vie, ça menuise, mais le travail continue. Les sauveteurs sont aidés par de puissants projecteurs, par des groupes électrogènes et même par une grue, car il faut imaginer qu'il ne reste plus rien du toit, à sa place un trou béant. Et si le bilan est si compliqué à établir, c'est parce que les médias estiment qu'il y avait entre 500 et 1000 personnes dans la boîte de nuit au moment du drame. Il faut ajouter, vous l'avez précisé, que lorsque le plafond s'est effondré, eh bien se produisait sur scène une véritable star de la musique latino, le chanteur et producteur Ruby Pérez. Pour donner un aperçu du personnage, il a produit 70 albums et composé un millier de chansons. Il fait partie des victimes. Le président dominicain s'est donc rendu sur place et a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de la tragédie. Dans un communiqué, la discothèque assure collaborer de manière totale et transparente avec les autorités pour clarifier ce qui s'est passé. Car pour l'instant, la seule chose dont on soit sûr, c'est que le toit s'est effondré.
Nathanaël Charbonnier, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Et les sorties de la semaine avec Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
Vous nous conseillez cette semaine une chronique sociale tournée dans le sud de la France. Ça s'appelle Mikado.
Oui, c'est le 3e film de la réalisatrice Baya Kasmi qui nous plonge ici dans le quotidien précaire et chaotique d'une famille qui vit dans un camion.
Vous avez besoin d'aide ou...
Non, pas oui, si.
Elle est morte de votre batterie.
Oh non, putain de merde.
Michael, alias Mikado, Laetitia et leurs deux filles doivent interrompre leur vie nomade quelques semaines, le temps de réparer le camion qui leur sert de domicile. Ils sont accueillis par Vincent, un professeur veuf qui élève seul sa fille adolescente. D'une grande tendresse et d'une belle délicatesse, cette comédie dramatique parvient à trouver le ton juste pour parler de cette famille à la marge. La direction d'acteur est impressionnante avec les impeccables Félix Moati et Vima Laponce et un Ramzi Bedia en très grande forme.
Autre coup de cœur cette semaine, Alexis, pour le road movie Voyage avec mon père.
This is where you grew up?
Yes, they moved here in 1940.
What do you think? Should we go in there?
Nous sommes dans les années 90, une journaliste new-yorkaise et son père, un survivant de la Shoah, se rendent en Pologne. Malgré des rapports très conflictuels, ces deux Américains effectuent un voyage chargé en émotions, retrouvant les lieux de l'enfance du père et visitant le camp d'Auschwitz où il fut déporté. Évidemment, l'histoire racontée ici est très proche du film récemment oscarisé A Real Pain de Jesse Eisenberg, dans lequel deux cousins new-yorkais visitaient la Pologne, pays d'origine de leurs grands-parents. Mais malgré la proximité de ces deux sorties en salle et leurs nombreux points communs, tant narratifs qu'esthétiques, Voyage avec mon père fonctionne très bien, avec dans le rôle principal Lena Dunham, décidément trop rare depuis la fin de sa formidable série Girls.
Vous êtes moins convaincu, en revanche, par le drame historique danois La jeune femme à l'aiguille.
Oui, un film sélectionné à Cannes en mai dernier, mais qui n'avait pas su convaincre le jury. Il faut dire que cette histoire d'une jeune ouvrière qui tombe enceinte pendant l'entre-deux-guerres est sacrément plombante et manque cruellement de nuances. Comme pour renforcer le manichéisme de sa démarche, le réalisateur Magnus von Horn opte ici pour le noir et blanc. Et il y a en effet un côté très binaire dans ce récit, les malheurs de l'héroïne semblant parfois servir de prétexte à une accumulation complaisante de violences physiques et psychologiques jusqu'à l'indigestion.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Dogman, un film d'animation canin produit par DreamWorks, berger, western pastoral et provençal, réalisé par la Québécoise Sophie Deraspe, et Zion, un film d'action guadeloupéen qui débarque en métropole, précédé d'un très bon bouche à oreille en provenance des Antilles, où il est déjà en salle depuis 3 semaines.
Merci Alexis Demeyer et à mercredi prochain. Il y aura des stars de cinéma ce soir dans les tribunes du Parc des Princes à Paris, et sans doute plus, puisque le prince William lui-même est attendu, fervent supporter du club anglais d'Aston Villa, qui défie donc le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des champions de football. William qui, dit-il, contribue anonymement à des forums de fans en ligne consacrés à ce club, c'est dire. Car même si la formation de Birmingham n'est pas la plus prestigieuse du foot anglais, Jean-Pierre Blimeau, elle est redoutable. Et elle est surtout dirigée par l'ancien entraîneur de Paris, l'Espagnol Unai Emery.
Fantastique, c'est le mot d'Unai Emery lorsqu'il évoque son retour au Parc des Princes, où il a remporté des titres, comme celui de champion de France lors de sa deuxième saison. Mais au PSG, il a également connu des échecs, comme celui de la remontada face au FC Barcelone, alors dirigé par Luis Enrique, l'actuel entraîneur du PSG, très heureux de retrouver son ancien rival.
C'est une joie pour moi de revoir Unai, c'est un plaisir de retrouver l'un des entraîneurs avec la plus grande trajectoire européenne. Il a remporté énormément de trophées, c'est quelqu'un qui soigne énormément les détails, c'est un grand entraîneur. Aston Villa est une grande équipe, ces deux dernières années, elle a considérablement progressé sous la houlette d'Unai Emery. Et si elle est à ce niveau, c'est grâce à son mérite.
Aston Villa s'adapte également beaucoup à ses adversaires, précise Pierre-Étienne Minonzio, journaliste à l'équipe et spécialiste du foot anglais. Ça marche puisque Unai Emery et son équipe restent sur 7 victoires consécutives.
C'est une équipe qui a une excellente dynamique, qui s'est vraiment renforcée en janvier. Il y a des retours de blessures et évidemment, Unai Emery, vous le connaissez, tactiquement c'est extrêmement fort. Donc moi je trouve que c'est une équipe qui est redoutable et surtout, il ne faut pas la sous-estimer.
En attendant, Unai Emery est surtout l'entraîneur qui gagne en Ligue Europa, qu'il est le seul à avoir remporté 4 fois, 3 fois avec le FC Séville, une fois avec Villarreal.
PSG Aston Villa, coup d'envoi 21h, retour à Birmingham mardi prochain. Autre quart de finale ce soir, FC Barcelone, Borussia Dortmund en basket. Une équipe française engagée en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions, c'est l'Euroleague pour les joueuses de Bourges, opposées ce soir en quart de finale aux Turcs de Mersin. Voilà qui va peut-être donner des idées à tous les bureaux de poste de France. À Riquewihr, en Alsace, sur la route des vins, on peut désormais à la poste, en plus d'acheter des timbres ou déposer des lettres, commander des produits locaux à 26 agriculteurs et 7 vignerons. Guillaume Schum, ces agriculteurs, ces producteurs locaux sont venus présenter le dispositif hier.
Et ces séances de dégustation pour François, bien heureux de découvrir des fruits et légumes cultivés près de chez lui, il va bientôt pouvoir en récupérer, ils sont bons à déguster.
J'habite pas loin, vous voyez, je marche avec une canne de très bons produits, j'ai goûté un peu tout, je suis content qu'il y ait ça.
Vous allez pouvoir passer commande alors ?
Évidemment, la semaine prochaine.
Michel habite aussi Riquewihr, il est séduit par le concept.
Très bien, ça nous permet d'acheter des choses ici à Riquewihr, quoi. Ouais. De ne pas toujours se déplacer. On ne trouve pas tout à Riquewihr, il y a des choses bio, je vois, des légumes bio et tout ça.
Un service de proximité qui est une volonté des habitants dans la cité viticole d'un millier d'habitants. Vincent Scherer est adjoint en maire de Riquewihr.
C'est une commune très touristique effectivement, mais notre nombre d'habitants, c'est aussi une volonté de la commune, du maire, de perdurer la population, de le faire venir et revenir sur des endroits où, qui sont vraiment les symboles du service public. La Poste.
Des agriculteurs locaux sont aussi ravis de pouvoir vendre leurs produits aux habitants. L'apiculteur Jean Bianchi participe à l'aventure.
En tant que producteur, on a plutôt envie de satisfaire des gens du coin, nos voisins, des gens qu'on peut connaître, qu'on peut saluer, pas dans un supermarché où finalement le lien est complètement distendu avec les clients.
Pour les produits, il y a le choix, il y a plus de 1300 références.
Et ce dispositif Place des Services fonctionne déjà dans 21 bureaux de poste de France. Reportage ici Alsace, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure. Nous, on avait commandé le soleil, il va être livré par Sébastien Léas dans quelques instants. Puis à 13h30, quelle est la vie d'une adolescente à la campagne? On entend peu ces jeunes filles, alors on leur donne la parole. Plusieurs d'entre elles, originaires du Morbihan, l'ont prise cette parole. Elles racontent leur quotidien dans un podcast. Nous avons décidé de les inviter et vous pouvez les interroger. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton. Pourquoi les cabarets attirent-ils autant de public? La suite de notre feuilleton, nous sommes près de Roanne. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour, Jérôme.
Éric, la justice prise pour cible dans notre pays.
Et oui Jérôme, juge devient un métier dangereux. On l'a vu en effet pour la magistrate qui a condamné Marine Le Pen, qu'un septuagénaire a menacé de mort sur les réseaux sociaux. Mais ces pratiques inquiétantes vont bien au-delà des jugements concernant les responsables politiques.
Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Marie-Lou Berry, qu'on peut voir depuis aujourd'hui au cinéma dans le film « D'où Jésus ».
Avec elle, c'est la voix de Janis Joplin que l'on écoutera, une chanteuse qui lui a fait énormément de bien quand elle était adolescente.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Stack désigne en anglais les piliers de la mer, détachés de la côte. D'Etretat au Cap Horn, ces sentinelles de roche se dressent par milliers devant les falaises côtières.
Sylvain Tesson.
Qui êtes-vous, tour de la haute mer? Tout bouge autour de nous, vous ne reculez pas. Je veux me balancer dans les vagues, grimper ces aiguilles au milieu des oiseaux. Je pars vous escalader, dernier refuge de la beauté.
Les piliers de la mer, le nouveau livre événement de Sylvain Tesson, chez Albin Michel. Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Le temps de votre après-midi.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est un après-midi ensoleillé, sauf sur le sud-est.
Oui, le ciel restera quasiment tout bleu ou légèrement voilé de la Bretagne et de la Normandie au Poitou, jusqu'à l'ouest de l'Auvergne, à la Bourgogne-Franche-Comté, au Grand Est et au Hauts-de-France. Le soleil sera assez nettement prédominant dans les plaines du sud-ouest, mais le voile de nuages élevés sera par moments un peu plus épais. En revanche, sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, les nuages bas ont du mal à se dissiper et risquent de rester tenaces cet après-midi. Les grisailles venues de la Méditerranée vont aussi maintenir un ciel chargé du Roussillon à la Provence et à la Corse. Alors la couche nuageuse sera un peu plus morcelé que ce matin, mais les éclaircies resteront globalement timides. Quelques averses se feront même remarquer sur la Corse. Enfin, entre l'est du Massif central et les Alpes, il faut s'attendre à une évolution instable cet après-midi. Les nuages vont bourgeonner et pourront être suffisamment épais pour donner des averses, voire quelques orages isolés en fin de journée. Le risque d'averses concernant essentiellement les hauteurs. Les températures maximales sont 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Mais sur les régions méditerranéennes et sous les grisailles persistantes du Boulonnais, les températures de l'après-midi seront parfois un peu justes pour la saison. Il fera d'ailleurs seulement 11 degrés à Dunkerque alors qu'on attend 16 degrés à Lille sous le soleil. 16 degrés également du côté de Montpellier et de Nice. 17 degrés à Marseille et Nancy. 18 à Strasbourg et à Dijon. On attend 19 degrés à Ajaccio et à Aurillac. 20 degrés à Paris-Quimper et à Lyon. Et jusqu'à 23 degrés à Toulouse.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
J'ai envie de vous raconter une histoire aujourd'hui. Il y a quelques mois, je tombe par hasard à la caisse d'une grande surface en Bretagne sur un flyer, un dépliant qui fait la promotion d'une association. Ce sont des adolescentes qui réalisent un podcast et qui veulent le faire savoir. L'association s'appelle XXL, E2LES. Le podcast s'intitule « Même pas peur ». Et ces jeunes filles âgées de 14 à 18 ans y racontent ce que c'est que de grandir à la campagne. Quand on est une fille, les relations avec les garçons, la confiance en soi, la beauté de la nature, les copines, la peur des villes, l'attirance des villes aussi. J'écoute et c'est formidable. Alors avec l'équipe du 13-14, nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de vous proposer, à vous, de venir à France Inter pour en parler ensemble avec les auditeurs. Et vous voilà, bonjour à toutes les trois. Je vous présente. Bonjour Mayonne.
Bonjour.
Tu as 15 ans, tu es au lycée. Est-ce que tu peux nous dire où et ce que tu y fais ?
Je suis donc en filière générale au lycée Diwan de Carhaix, en lycée en breton.
Donc tout en breton ?
Oui, c'est ça.
Et avec toi, Corrie Douen. Bonjour.
Bonjour.
J'ai bien prononcé cette fois. Je me suis trompé tout à l'heure. Tu as 17 ans, tu es toi aussi au lycée. Tu peux nous en dire plus ?
Alors, moi, je suis au lycée à Rostrenin. Je suis en filière Bac Pro Animation Enfants et Personnes Âgées.
Vous vous connaissiez avant de rentrer dans l'association ?
Oui, on s'était déjà vus à la Maison des Jeunes.
Et vous êtes nombreuses dans l'association aujourd'hui ?
On est 5 à participer aux séances.
Vous venez donc de Langonnette, 2000 habitants dans le Morbihan, dans le centre Bretagne, tout comme la cofondatrice de cette association, Marie-Christine Montfort, qui vous accompagne. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
01 45 24 7000 si vous voulez nous rejoindre et passer par le standard. Sinon, il y a évidemment l'application France Inter. Vos premières impressions, Mayande, Corrie Douen, sur votre début de journée, votre voyage ce matin depuis la Bretagne, votre arrivée à Paris à la Maison de la Radio ?
Mayande ? Finalement, ça ne change pas trop, je pense, de Bretagne. Après, on a été aussi impressionnés par la vue de la Tour Eiffel. C'est une première. Puis, je suis du même avis.
Corrie Douen.
Et puis, moi, c'était la première fois que je prenais le train aussi. C'est spécial.
C'était ta première en TGV ce matin.
Oui.
Entre la gare de Lorient, donc d'où vous êtes parti, et la gare de Montparnasse. Marie-Christine Montfort, comment est née dans votre tête l'idée de cette association ? Vous qui êtes originaire de Langonnette, vous avez ensuite vécu ailleurs et puis vous y êtes revenu.
C'est exact. Alors, l'idée de l'association est venue de la rencontre de deux femmes féministes, mais de deux générations, c'est-à-dire moi et ma comparse Louise Merdi, qui est une Langonnettaise et qui elle, a vécu longtemps à Langonnette. Et quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de lieux de socialisation des jeunes filles, peu de lieux de valorisation des jeunes filles. Et cette observation vraiment empirique, elle a été confortée par un tas de lectures, un tas de rapports, notamment le dernier rapport du Sénat sur la place et le rôle des femmes en zone rurale.
Et qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes filles en zone rurale? Ça, c'est une question qui vous a taraudé.
Absolument, et très très peu de choses s'occupent des jeunes filles en zone rurale. Et j'ai dit, s'il n'y en a pas beaucoup, on va créer une association. Et cette association a vu le jour il y a 2 ans. Et on est multi-activité avec certaines activités en non-mixité. C'est important.
Donc sans les garçons que les filles?
Sans les garçons que les filles et certaines activités en mixité.
C'est un constat que vous aviez fait, Mayande Corridouane, qu'on propose plus de choses, il y a plus d'activités proposées aux garçons qu'aux filles?
Mayande, c'est vrai qu'il y a déjà les clubs de foot ou par exemple basket. Et en général, je sais qu'à Gourin, par exemple, il n'y a pas d'équipe féminine en foot, je crois.
Et une équipe de basket féminine, mais pas de foot. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui en font. Mais du coup, l'équipe de foot féminine, je ne sais même pas où elle est. Elle doit être à Carhaix.
Et jouer au foot ou au basket dans la même équipe que les garçons?
Ils ne font pas parce qu'en fait, comme ils font des matchs, en fait, on ne peut pas mélanger les deux sexes.
Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait du podcast. Même pas peur, c'est ça, hein, Marie-Christine Montfort. Et le titre dit beaucoup aussi de la démarche. Il y a beaucoup de thèmes que vous abordez. Et dans celui-ci, c'est la question de la confiance en soi.
Je sais pas si je suis une amie pour moi-même, dans le sens où, suivant soit comment je me sens, soit ce qui se passe actuellement autour de moi, y a des fois où je vais être dans des périodes où je vais me dénigrer complètement, je vais être horrible avec moi-même, super exigeante. Et il y a des fois où je vais me dire, mais non, mais que tu peux pas te dire ça, en fait. Tu te dois de continuer, tu peux le faire et tu vas y arriver. Et des fois, ces périodes, elles sont quand même plus fortes. Et des fois, elles sont mélangées, et du coup, c'est vraiment compliqué de vivre avec ça.
Je vais me dénigrer, être horrible avec moi-même, mais dans le même temps, je me dis, tu dois continuer. Je ne sais pas qui parle précisément. C'est toi, Corridouane. Pourquoi est-ce que tu dis ça à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens?
C'est ce que je disais. En fait, des fois, j'ai des phases où vraiment, je me sens pas bien du tout, mal dans ma peau. Et du coup, effectivement, j'ai des phases où je vais me dévaloriser et des phases où, au contraire, je vais me monter vers le haut, je vais m'encourager moi-même. Faire des choses.
Et se retrouver avec les copines, est-ce que ça aide?
Oui.
Et pourquoi?
Parce qu'elle croit vraiment en nous, elle voit une autre façon, elle nous voit d'une façon différente, donc elle nous monte, elle, vers le haut, et du coup ça nous aide.
Ce sont des interrogations, Marie-Christine Montfort, qui sont celles de jeunes filles qui vivent en milieu rural, mais qui sont celles de toutes les adolescentes. La confiance en soi, c'est vraiment une question qu'on se pose quand on grandit et quand on arrive dans ces âges-là.
Mais certainement, c'est une question que les jeunes filles en grande ville comme Paris aussi se posent certainement. La différence tout de même, il y en a une,
ouais.
D'où la création de XXL, c'est qu'à Paris, il y a certainement un tas de lieux où elles peuvent être réconfortées, où elles peuvent faire des choses, où elles peuvent être accompagnées. Et l'accompagnement, c'est la clé de l'histoire, en fait. Et à XXL, nous les accompagnons dans leurs envies, dans leurs craintes, dans leurs angoisses et dans leur imagination, parce qu'elles débordent d'imagination, elles débordent d'inventivité. Et à travers XXL, à travers les différentes activités qu'on a développées, on leur donne cette possibilité de s'exprimer et d'être bien entre elles, d'être bien les unes avec les autres et d'être positives les unes avec les autres.
S'exprimer, c'est la question de la parole. Prendre la parole quand on est ado.
La confiance en soi, c'est pouvoir parler à l'oral sans trop buter, sans réfléchir à ce qu'on doit dire, au jugement des autres. Et l'estime de soi, c'est sur le physique surtout, peut-être, je crois. Se dire qu'on est joli, s'apprêter pour nous, tout ça.
Autre extrait de ce podcast, Mayande, vous en parlez ça entre vous, ce qu'on dit aux autres, comment on parle aux autres, c'est aussi un thème de discussion dans l'association à l'occasion de vos rencontres.
Quand on va parler de la confiance en soi et puis du regard qu'ont les autres sur nous.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as, toi, davantage confiance en toi au lycée, si tu dois apprendre la parole, par exemple ?
Oui, je pense. XXL m'a assez aidé sur ça, parce que déjà, passer à l'oral dans un podcast, c'est quand même une certaine forme de... Comment dirais-je ?
C'est impressionnant ?
Oui, voilà. Et ouais. Donc,
on sait que d'autres vont l'écouter ?
Oui, c'est clair. Mais du coup, on mûrit et maintenant, je pense que j'ai un petit peu moins peur, par exemple, de passer devant les gens de ma classe pour des exposés ou autre.
Cette timidité, j'appelle ça timidité, c'est peut-être pas le bon mot, ou manque de confiance en soi, vous diriez que vous la partagez aussi avec les garçons de votre âge, que quand on est ado, finalement, on est égaux par rapport à ça, ou bien pour les filles, c'est un peu plus compliqué, peut-être les filles vont moins participer. Corrie Douane, qu'est-ce que tu en penses ?
Non, moi je pense que la question de la confiance en soi, c'est par rapport au genre, ça ne diffère pas. Je pense que les garçons ont autant peu confiance en eux que nous. Enfin, il y a autant de différences.
Marie-Christine Montfort sur ce point et aussi sur ce que vous faites pour les aider peut-être à sortir d'elles-mêmes et à dire. Alors il y a le podcast, mais il n'y a pas que ça.
Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec Corrie Douane. Je pense qu'au niveau de la confiance en soi, les garçons, parce qu'ils ont un tas de lieux de socialisation, un lieu de valorisation, ils sont quand même un petit peu plus à l'aise. On le sait également que dans des classes, les garçons prennent plus souvent la parole. Dans les conseils municipaux, les hommes prennent plus souvent la parole. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire du féminisme et l'histoire de la place des hommes et des femmes dans notre société. Mais sans doute que les garçons auraient besoin également qu'on les accompagne. Alors, nous, on n'est pas tout à fait prêtes parce qu'on manque de ressources, à langue honnête. Mais,
l'appel est lancé.
Mais l'appel... je reprends mes idées. Sans doute que les filles, c'est pas sans doute, c'est sûrement que les filles ont moins de lieux pour s'exprimer, pour prendre la parole. Et là, Jérôme, merci infiniment de leur donner la parole.
C'est exactement le but qu'on recherche ici dans cette émission, dans le 13-14. Et c'est notre mission, au fond, donner la parole, même quand elle est peut-être plus lointaine. C'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui. Cette parole, elle nous paraît lointaine, Langonnette, 2000 habitants. Et souvent, on oppose la jeunesse des villes et la jeunesse des champs. Vous me direz, ça date pas d'hier. Que diriez-vous, ça c'est une des questions qu'il y a dans le podcast, que diriez-vous à une jeune fille qui viendrait s'installer à Langonnette et qui, par exemple, viendrait de Rennes ?
Des conseils que je donnerais à une jeune fille qui vient de Rennes et qui vient vivre en milieu rural. Déjà, il faudrait qu'elle sorte plus souvent et moins rester sur les écrans, parce que sinon, quand elle va sortir, elle va se demander « Mais c'est quoi ces gens-là ? Pourquoi est-ce qu'ils me regardent ?» Qu'à la campagne, quand tu sors, tu croises toujours Jean-Michel qui fait ses courses et que tu connais très bien, donc tu vas dire bonjour à Jean-Michel. Alors que si t'arrives, t'es là, les gens en campagne, ils disent tout le temps bonjour, donc si tu réponds pas bonjour, c'est un peu bizarre.
Alors nous, on se demande avec toute l'équipe du 13-14 depuis hier, mais qui est ce Jean-Michel à qui il faut absolument dire bonjour ? Mayenne.
Je pense que c'est les voisins.
C'est tout le monde.
Oui, c'est tout le monde, finalement. Et puis, comme le disait Eva dans le podcast, c'est vrai que je pense qu'à la campagne, ne pas dire, vu qu'on se connaît tous, finalement, ne pas dire bonjour, on passerait peut-être pour quelqu'un d'hautain, finalement, alors qu'en ville, c'est peut-être moins, je vais dire, mal vu, mais je pense pas que c'est le terme, mais vous m'avez comprise.
On n'a pas envie d'être tranquille, parfois, de se dire, tiens, voilà, au moins les gens, dans une ville, il y a une forme d'anonymat, les gens ne savent pas toujours ce qu'on fait. Alors, dans un village de 2000 habitants, quand on fait quelque chose ou quand on s'habille d'une certaine manière, tout le monde est au courant et tout de suite, Corrie Douane.
C'est assez vrai, effectivement, les rumeurs ou les bruits de couloir vont assez vite. Après, moi je trouve ça bien, je trouve ça pas dérangeant.
C'est Eva qui parlait, c'est ça,
oui, c'est ça.
Elle parle des écrans. Bon, vous aussi, vous êtes sur les écrans.
Oui, bah oui.
Bah oui, il y a aussi un sujet avec les parents de pas trop d'écran.
Oui, peut-être. Mais après, on a plus tendance à aller... vu qu'on a la plupart ont un jardin, je pense, quand même. Et du coup, c'est vrai qu'on a moins cette tendance, je pense, à aller sur les écrans parce que on va passer beaucoup plus de temps dehors parce que c'est plus accessible, tout simplement. Et que dès qu'il y a un rayon de soleil, on va en profiter.
On parle de la relation avec les villes, l'éloignement, les transports, est-ce que c'est un sujet pour vous de se déplacer, par exemple ? Mayenne, comment est-ce que tu fais ?
Moi, j'ai la chance d'avoir un scooter, je l'ai eu pour mon brevet, donc c'est quelque chose qui est assez pratique, puisque je peux aller au Fawet, la ville,
Ouais, il y a quoi, 10 000 habitants, je ne sais pas, au Fawet, ouais.
Oui, mais enfin...
3 000, me dit Marie-Christine Montfort, on a corrigé.
Avec la piscine et puis le cinéma. Mais c'est vrai que, par exemple, les transports intercommunaux, il en manque. Et même les transports au commun, en général, c'est vrai que ce serait bien d'en avoir. Parce que juste pour avoir le choix, par exemple, du cinéma qu'on veut choisir, parce qu'ils n'ont pas le même programme ou...
Et l'accès à la culture aussi.
Oui, mais c'est pas...
Mais ça, c'est moins un sujet.
Oui.
D'un mot, nous avons Martine en ligne qui nous a appelé 01 45 24 7000. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Réaction à ce que vous venez d'entendre?
Oui, j'ai très bien entendu. Et voilà, je voulais juste commencer par adresser un message de félicitations à ces deux jeunes filles qui sont courageuses, qui sont porteuses d'un message important, un message d'espoir, un message de bonheur, quelque chose en fait, même si je sais que tous les sujets abordés ne vont pas être drôles, je crois que l'important pour moi, ce qui me semble essentiel dans leur démarche, mais je voudrais leur demander comment elles en sont arrivées là, c'est le fait que ce soit un projet. C'est un projet.
C'est exactement ça. Je suis obligé de vous interrompre, Martine, parce qu'on n'a plus le temps, mais je voulais absolument partager l'enthousiasme aussi des auditeurs de France Inter pour votre démarche. Je vous remercie, Mayanne et Coridwen, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Marie-Christine Montfort. Dire aussi qu'il y a de très belles phrases sur la relation à la nature. Il y a cette scène très étonnante où on vous voit au bord d'un lavoir, où on vous écoute au bord d'un lavoir, au bord de rochers, en train de parler à l'eau, la parole, la mémoire de l'eau, c'est extrêmement poétique. Merci beaucoup. Un dernier mot, très vite.
Très rapidement. Merci encore, Jérôme, pour ce rendez-vous. Pour préciser également qu'on a une deuxième saison du podcast qui va sortir à la mi-juin. Donc, podcast XXL, saison 2 à venir.
Merci infiniment. 13h46 sur Inter. C'est la vie de cabaret cette semaine dans notre feuilleton. 200 cabarets en France, surtout en région, dans de petites communes. Nous sommes toujours à Renaison, près de Roanne. Aujourd'hui, c'est répétition avec la troupe de danse.
Les Rouennais, ils savent même pas qu'à Renaison, juste à 10 minutes de chez eux, il y a un grand cabaret qui fait la partie de 10 plus grands cabarets de France. Vu que je suis dedans, je ne peux pas me permettre de dire qu'on est meilleur. Mais certains publics, certains collègues qui viennent chez nous, ils disent que, écoutez, c'est même plus haut que certains paris, le niveau. Moi, je suis Dima, je suis capitaine de ballet de Cabaret Élégance. Moi, je suis l'Ukrainien, je suis en France depuis 2013. J'ai des exemples parisiens qui travaillent le même spectacle depuis 15 ans. Et il n'a pas énormément de vie à côté car il est là tous les jours, 6 sur 7. Et quand tu es là sur 7, 12 spectacles par jour, tu n'as pas énormément de temps à évoluer dans ton niveau, entre guillemets. Tu as déjà un super niveau. Je ne veux pas dire que dans les cabarets parisiens, il n'y a pas de niveau. Pour arriver là-bas, il faut un gros niveau. Mais une fois arrivé là-bas, tu es bloqué à faire la même chose et à rester dans la même condition, même état et même niveau.
On fait juste avec la musique pour que ça rentre un peu mieux.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le cabaret ?
Un peu la folie. Tu sais pas à quoi attendre. À chaque fois quand tu arrives dans un cabaret, n'importe quel cabaret de France, tu as peut-être cette cliché, effectivement, que cabaret, c'est que les plumes, c'est que les filles. Et d'un coup, tu arrives, par exemple, chez nous, il y a un garçon avec un crête de punk, entre guillemets, qui fait des saltos, des flips. Ça change. On a des attractions aériennes qui font des chutes, qui volent, qui tombent. Enfin, et ça, c'est un côté de folie, je pense, et ça, ça plaît beaucoup parce que les cabarets, enfin, c'est pas que les filles ont plumes.
Mets-toi au milieu, Emma.
Ouais,
vous venez de croiser, vous attaquez le refrain. Et par contre, n'oubliez pas que vous êtes en miroir, ça, à certains moments.
Ça. Là, du coup, on est dans les loges des filles. C'est là où on se prépare, on se maquille, où on fait notre mise en place de costumes. Et du coup, on vient se changer, on court pour aller jusque sur scène. entre chaque tableau.
On est 3 heures avant le spectacle à peu près, vous êtes déjà maquillée?
Oui, on vient à partir de 17h, on se maquille, on doit faire la mise en place, vérifier que toutes les plumes et les casques sont bien à la bonne place, qu'ils ne sont pas cassés. Des fois, il y a des réparations costumes aussi. Et puis après, on mange tous ensemble, après on s'échauffe et ensuite, il faut faire l'accueil du public. Donc finalement, les 3 heures passent très très vite. Alors moi, je m'appelle Emma Saint-Paul. De base, je suis lilloise. J'ai déménagé ici pour l'Élégance Cabaret. J'entame ma 4e saison ici. Le cancan, c'est un peu libérateur. On sait que c'est la fin, donc c'est là où on donne tout. Et puis le cancan, il y a beaucoup, énormément de comédie. Donc on joue avec le public, on joue entre nous. Il y a des petits passages de solistes, de duos où on montre un peu notre technique. Et puis on sait aussi que c'est là où à la fin on est présenté, où c'est la fin du spectacle et que c'est un peu notre petit moment de, pas de gloire, mais notre moment où on se dit ah ok, c'est bon, je l'ai fait quoi.
Notre feuilleton signé Victor Vasseur. Cette semaine, réalisation Stéphane Roncin.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi à 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, vous constatez que la condamnation de Marine Le Pen à une peine de 5 ans d'inéligibilité a déchaîné les attaques contre la justice.
Et oui, Jérôme, ce jugement du 31 mars, assorti d'une exécution provisoire, n'a pas fini de faire des remous. Comme si une décision de justice comble, ou paradoxe, avait pour effet de troubler l'ordre public, alors qu'elle est censée, au contraire, le rétablir en s'appuyant sur la loi. Rappelons précisément que dans un but de moralisation de la vie politique, notre droit punit désormais les faits de détournement de fonds publics et rend l'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation pour des délits, chaque mot compte, porte atteinte au devoir de probité commis par des personnes exerçant une fonction publique. Autant de précisions qui correspondent à l'évidence au profil de Madame Le Pen. Dure à l'ex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Elle reflète et renforce un état de droit qui seul rend possible la confiance dans les institutions de la République, dans la solidité de la démocratie, bref, qui permet aux citoyens de se convaincre, à minima, que nul n'est au-dessus des lois, même s'il est puissant.
Cette application motivée de la loi est pourtant vivement, pour ne pas dire violemment rejetée par les soutiens de Marine Le Pen. Appliquer le droit est-il devenu dangereux pour les magistrats ?
Oui, Jérôme. Mais de plus en plus, quand on lit les menaces de mort adressées par un septuagénaire sur les réseaux sociaux à l'encontre de la présidente de la 11e chambre du tribunal de Paris qui a rendu cette décision à l'encontre de Marine Le Pen. Hier, l'homme qui la menaçait d'une guillotine symbolique a été arrêté et mis en garde à vue. Et de son côté, la juge a été placée sous protection policière avec des patrouilles renforcées et des rondes régulières autour de son domicile. Je rappelle que nous sommes en France. Mais comme le souligne Alexandra Vaillant, secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats, dans le 1 Hebdo qui paraît aujourd'hui, les menaces et les intimidations à l'encontre des magistrats ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Elles ont au contraire connu ces dernières années une recrudescence inquiétante. Savez-vous, Jérôme, qu'à l'heure où nous parlons, 150 magistrats de notre pays sont sous protection policière, dont 20 sous protection renforcée. Et la chasse au col d'hermine est d'autant plus violente qu'elle se déchaîne sous couvert d'anonymat sur les réseaux sociaux, où les agresseurs, entre guillemets, n'hésitent pas à balancer, il n'y a pas d'autre mot, les noms des magistrats qu'ils ciblent, leurs adresses et leurs numéros de téléphone.
Ces dérives concernent-elles d'abord les responsables politiques qui sont poursuivis ?
Oui, évidemment, les affaires Fillon hier, Sarkozy et Le Pen aujourd'hui alimentent le fantasme d'un gouvernement des juges qui irait au-delà de leurs prérogatives. Mais le plus inquiétant est que ces pratiques de la contestation brutale des magistrats, loin de se limiter aux affaires pénales, gagnent désormais les audiences civiles qui sont moins sécurisées. C'est le cas des affaires familiales ou de tutelle, où le juge se retrouve souvent seul avec un greffier ou une greffière sans police d'audience, alors qu'on prend dans ses enceintes des décisions qui impactent la vie des gens. Menaces, outrances et même agressions physiques ne sont pas rares. Aucun magistrat ne devrait être attaqué du fait de son activité juridictionnelle, insiste Alexandra Vaillant, qui pointe, outre les dossiers du quotidien, les affaires à haut risque concernant le crime organisé. C'est dit dire s'il faut se montrer inflexible sur le respect et l'autorité de la chose jugée, mais aussi sur la protection de celles et ceux de simples humains qui font du jugement en droit le bouclier d'une démocratie sans cesse attaquée.
Merci Éric Fotorino, et c'est à lire aujourd'hui dans le 1 hebdo de C'est la France, ah, c'est une chanson. C'est la comédienne Marie-Lou Berry qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Elle est à l'affiche du film D'où Jésus en salle depuis ce matin, un film dans lequel elle incarne une religieuse qui fugue de son couvent pour tenter de retrouver son amour de jeunesse. Et c'est de l'américaine Janis Joplin que Marie-Lou Berry a souhaité me parler, chanteuse qu'elle s'est mise à écouter à l'adolescence.
Janis Joplin, ça a été déjà une artiste, une femme très libre, carrière très courte. Et sa musique a une forme de liberté, de laisser-aller qui est mais incroyable quoi, à l'écouter. Et puis en plus, je trouve que on a l'impression, quand on la voit chanter, qu'on sait qu'elle va mourir, en fait. Comme si elle savait que ça allait être très rapide. Et c'est des musiques que, par exemple, je me faisais des installations dans ma chambre où j'installais plein d'enceintes, comme ça. Je mettais un casque et je chantais par-dessus. Et j'avais l'impression d'être au concert et de faire le concert. Et c'était incroyable, Janis Joplin.
Là, vous aviez l'impression d'être Janis Joplin ?
Oui. Ah, Janis Joplin, c'est une chanteuse que j'aurais bien aimé jouer, ouais. Je trouve que c'est une artiste qui a une voix qui est en même temps la douleur, la joie, la drogue, tout quoi, il y a tout dans sa voix.
C'est en 1968 qu'est sortie cette chanson de Janis Joplin. Frédéric, son titre, Piece of My Heart.
Traduction Jérôme, un morceau de mon cœur. Et le cœur de Marie-Lou Berry, il était un peu triste quand elle était au collège. Heureusement, il y avait cette chanson et les autres chansons de Janis Joplin.
Moi, j'étais quelqu'un de très renfermé, de très asocial. J'avais très peu d'amis. À cette époque-là, j'étais très, très, très seule. Et sa solitude à elle a fait vraiment écho à la mienne. Et la puissance de ses chansons m'a vraiment fait un truc aux tripes, quoi, vraiment. Je trouve que quand on dit « ça prend aux tripes », je trouve que dans la musique, c'est une vraie réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe un truc dans le corps quand on entend certains morceaux. J'ai ce souvenir-là, moi, de frissons qui remontent. Et j'ai trouvé ça super beau.
Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas trop d'amis à cet âge-là ?
Parce que j'ai eu du mal à m'entendre avec les gens de mon âge quand j'étais plus jeune. Et j'arrivais pas à intégrer ces espèces de jeux sociaux qu'il y a dans ce petit théâtre qu'est l'école. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression qu'en écoutant Janis Joplin, vous vous sentiez moins seule ?
Ah bah oui. Oui, oui, complètement.
Dans cette chanson-là, elle raconte quoi ?
Bah, prends un petit morceau de mon cœur, bébé, prends-moi, quoi. Prends mon cœur, il est là. Et il bat pour toi, et c'est ça qui est très joli. Elle est trop belle, cette chanson.
Vous, est-ce que vous avez connu des passions débordantes comme celles que Janis Joplin chante dans cette chanson ?
Bah oui, oui, des passions pas forcément partagées, d'ailleurs. Sinon, j'avais des passions pour des acteurs. J'étais folle amoureuse de Jane Kelly, folle amoureuse de Jim Carrey, folle amoureuse de Tom Hanks. J'en rêvais la nuit. Je projetais des scénarios absolument improbables de moi qui les rencontrais et sans faire exprès, ils me bousculaient. Je faisais tomber toutes mes affaires par terre. Et... Oh, pardon. Et... Enfin, voilà, complètement folle. Mais je pense que je projetais tout ce que j'avais pas dans ma vie sur ces personnalités-là qui me fascinaient et qui me touchaient énormément dans leur manière de jouer aussi. Parce qu'ils ont tous ce point commun de jouer quelque chose de très bienveillant, ces acteurs-là. Très empathiques. Et c'est ça qui me touchait beaucoup, je pense. Parce que j'en trouvais pas beaucoup autour de moi, des gens comme ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu un faible pour les chansons tristes, mais qui n'ont pas forcément la musicalité d'une chanson triste.
Cette chanson-là, c'est une chanson triste pour vous ?
Non, c'est une chanson aussi d'espoir. C'est comme une sérénade aussi. Il y a de la lumière et il y a de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, quoi. C'est ça qui est beau.
Janis Joplin, Frédéric, Peace of My Heart, c'était donc le choix de Marie-Lou Berry.
Marie-Lou Berry, que vous pouvez retrouver au cinéma dans le film D'où Jésus de Frédéric Kain.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Vallée du Sahara.
Oui, à une époque, le Sahara était vert, figurez-vous. C'était il n'y a pas si longtemps, on en parle dans un instant.
Passionnant et c'est dans la Terre au carré.